Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel. Cette année encore, nous allons nous retrouver une fois par mois pour découvrir, s'émerveiller des solutions possibles pour réinventer le monde. Aujourd'hui, pour cette rentrée, une partie du Cercle Cœur du groupe Colibri de Chartres est avec moi, représentée par Angélique Prugnot. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et Lynn Lagrange.
Bonjour Alexia.
Nous allons donc pendant cette demi-heure rendre hommage à un homme qui est à l'origine du mouvement Colibri. C'est un écologiste et c'est un philosophe particulièrement inspirant et j'ai nommé Pierre Rabhi. Nous avons eu la grande chance de le rencontrer le 18 juillet dernier à la ferme du Plessis, à Pont-Gouin, où il était venu présenter une série de conférences. C'était un moment de réjouissance. Quel sentiment avez-vous gardé de ce moment particulier, Angélique ?
Alors moi, j'ai été très, très inspirée et également honorée, puisque j'ai eu la chance aussi le lendemain de passer une demi-journée avec lui pour le raccompagner à la gare. Et j'ai particulièrement aimé sa simplicité, le fort sens de l'humour et surtout dans son discours, ça n'est pas un discours avec une mise en scène ou des textes qu'il a appris et qu'il répète, il y a une vraie sincérité, il est vraiment habité par ce qu'il dit, on sent qu'il l'a vécu, voilà, c'est un message qui touche profondément, voilà. Donc ça m'a réénergétisée et je me suis dit, je veux continuer à en faire partie. Voilà.
Oui, une sobriété, une cohérence, une simplicité.
Un homme juste, oui, très... Il est, c'est le seul mot qui m'est venu, c'est « il est », quoi. Il émane quelque chose de très simple et de très, très habité et très cohérent.
Lynn ?
Alors, moi, j'ai trouvé cette journée très chouette. On était tous ensemble. Et par rapport à Pierre Rabhi, c'était la première fois que je le rencontrais, sa présence, sa personnalité dégage une force tout en discrétion. J'ai été touchée par la tranquillité de sa voix qui met en lumière la puissance des mots et touche au cœur en éveillant nos consciences. Cet homme, simplement, incarne ses aspirations profondes et nous invite dans cet élan commun et intelligent à en faire de même.
Alors, c'est ce que tu dis, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est un homme extrêmement inspirant. Alors, nous sommes des colibris de Chartres, nous avons été inspirés par Pierre Rabhi, entre autres, Quel est le lien vraiment qui unit Pierre Rabhi au groupe Colibri? Comment ça s'est fait?
Eh bien, Pierre Rabhi est le cofondateur et l'initiateur du mouvement Colibri, précédemment appelé Mouvement pour la Terre et l'Humanisme. Il est reconnu comme expert international pour la lutte contre la désertification. Et puis surtout, Pierre Rabhi est un des premiers... un des pionniers de l'agriculture écologique en France. Donc je pense que tout est réuni. C'est un homme qui est sorti du système en 1960 après une expérience qui ne l'a pas du tout comment dire, nourri en tant qu'ouvrier spécialisé. Il a décidé de sortir du productivisme et de se relier à la terre. Et de là... voilà, il a décidé de transmettre son savoir-faire. Ça s'est fait petit à petit. Donc aujourd'hui, ce mouvement des colibris permet de fédérer tout ce que l'humanité a de meilleur afin de cesser de faire de notre planète paradis un enfer. C'est une invitation à l'éveil des consciences, comme l'a dit tout à l'heure Lynn en parlant de Pierre Rabhi et ce qu'il émane, qui permet de nous relier, de nous soutenir et d'informer autour des alternatives possibles qui permettent une vie plus respectueuse du vivant et également, ce que dit Pierre Rabhi, cheminer vers une sobriété heureuse.
Alors pour connaître un peu plus Pierre Rabhi et son parcours, nous allons écouter un extrait de sa conférence où il revient sur son parcours qu'il avait précédemment décrit dans son livre « Du Sahara aux Cévennes ». Et là, on va vraiment voir ce qui s'est passé entre le Sahara et les Cévennes.
Auparavant, j'avais été un protestataire, si vous voulez, assez précoce. Quand je suis né donc dans le désert du Sahara, dans une organisation traditionnelle, oisienne, qui vivait là depuis, je ne sais pas, des siècles probablement. Et puis, il y a eu un chamboulement. Pour nous, la modernité, elle nous a atteint par la découverte du charbon dans notre sous-sol. Et ça a été le bouleversement de toutes nos structures sociales. Mon père était un forgeron, un poète, un musicien, tranquille, qui faisait son travail et il était libre dans son atelier. Du coup, ce père, il a deux enfants à l'époque, en l'occurrence notre serviteur et un frère, et il se trouve que notre mère nous a quittés, moi je n'avais que 4 ans quand ma mère nous a quittés, donc il me confie, alors que j'avais 7-8 ans, à un couple, un ingénieur d'une institutrice française, venu travailler dans les minières. Donc je passe très rapidement, disons sans transition, de l'islam, d'un monde musulman à un monde chrétien. Je passe sans transition de la tradition à la modernité, avec les ambiguïtés qu'il y avait entre les deux cultures. Je passe d'une société, surtout ne touche pas ni au porc, ni à rien du tout, à une société qui se régale avec du saucisson et du jambon. Et si je suis cinglé, c'est pas pour rien. Et en fait, on se demande, finalement, dès tout petit, mais qui a raison? Je ne me posais pas la question de cette façon, qui a raison? Mais ce que je vivais, c'est cette contradiction que je n'arrivais pas à comprendre, bien sûr, à cet âge-là. C'était que des interdits. Et du coup, eh ben, on se débrouille là-dedans pour essayer quand même de trouver une logique à tout ça. Et puis, je fais quelques études où je n'ai pas fait d'étincelles. Pourquoi je n'ai pas fait d'étincelles dans mes études? C'est parce que, en fait, j'avais une perception plutôt poétique des choses. On voulait m'imposer une rationalité stricte et froide alors que j'étais dans la poétique. Et puis la vie devenant très, très compliquée, l'Algérie, le climat difficile, de la reconquête, etc., etc., de la libération, etc. Les questions que je me pose s'intensifient. Et du coup, quand on a des questions à se poser comme ça, en tant qu'humain, on fréquente les philosophes. Donc j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté les philosophes, et j'ai trouvé que les philosophes ne s'entendaient pas non plus. Et j'arrive à Socrate, et Socrate dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. » Et moi, ça m'a convenu. Je vous assure, tout ce
fardeau qu'on se décharge. S'obstiner à savoir, bien sûr, mais il y a des limites auxquelles on est confronté. La vie, le mystère de la vie. Pourquoi le Seigneur, on rentre dans un labyrinthe de questions sans réponse. Par rapport à la nature, évidemment, énorme dégradation de la nature, ce qui amène notamment à dire, est-ce que l'agriculture, par exemple, l'agriculture, vous savez, tous les jours détruit. Elle détruit. Et on est rentré dans le principe particulier que pour que nous puissions nous nourrir et survivre, nous sommes obligés de détruire. C'est là le paradoxe. Et donc la coopération avec la vie ne s'exerce plus. Et si je suis personnellement engagé comme un agroécologiste, c'est parce que l'agroécologie est l'approche qui permet finalement de dire je me nourris, je prends soin de la terre, je l'améliore et je la transmets encore plus vivante que je l'ai reçue. Et là, je suis en coopération. Qu'est-ce que je fais avec l'agriculture ? Soit je vais aller chercher des sacs d'engrais et je mets dans la terre, soit je coopère avec les énergies de la vie. Et quand vous faites un simple compost, vous voyez, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une fermentation qui mobilise des milliards et des milliards de bactéries. Lesquelles bactéries et cette substance qu'on appelle l'humus. L'humus, ben, humus, étymologiquement, humus, humanité, humilité, c'est la même chose. Et donc cet humus, il est issu de quoi ? Il est issu de ce système, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ben, l'agriculture écologique, c'est ça. Et quand nous avons choisi, quand nous avons décidé de quitter Paris avec ma compagne Michel pour retourner à la terre, c'était en 60, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et on disait, mais pourquoi, diable, voulez-vous retourner à la terre ? Retourner à la terre, ça voulait dire aussi retourner aux racines même de l'existence, aux racines même de la vie. C'était de se remettre en harmonie avec ce qui est le fondement de la vie. Donc ça a été ça.
Des songes heureux pour ensemencer les siècles. Sachez que la création ne nous appartient pas, mais que nous sommes ses enfants. Gardez-vous de toute arrogance, car les arbres et toutes les créatures sont également enfants de la création. Vivez avec légèreté, sans jamais outrager l'eau, le souffle ou la lumière. Et si vous prélevez de la vie pour votre vie, ayez de la gratitude. Lorsque vous immolez un animal, sachez que c'est la vie qui se donne à la vie et que rien ne soit dilapidé de ce don. Sachez établir la mesure de toute chose. Ne faites point de bruit inutile. Ne tuez pas sans nécessité ou par divertissement. Sachez que les arbres et le vent se délectent de la mélodie qu'ensemble ils enfantent. Et l'oiseau, porté par le souffle, est un messager du ciel autant que de la terre. Soyez très éveillés lorsque le soleil illumine vos sentiers et lorsque la nuit vous rassemble. Ayez confiance en elle. Car si vous n'avez ni haine ni ennemi, elle vous conduira sans dommage sur ses pirogues de silence jusqu'aux rives de l'aurore. Que le temps et l'âge ne vous accablent pas, car ils vous préparent à d'autres naissances. Et dans vos jours amoindris, si votre vie fut juste, il naîtra de nouveaux songes heureux pour ensemencer les siècles. Thank you.
Lynn vient de nous lire une poésie de Pierre Rabhi qui est extraite du Recours à la Terre et que l'on peut trouver dans le livre La part du colibri, où Pierre Rabhi présente toute sa pensée. C'est une sorte de condensé de la pensée de l'agroécologiste. Pendant ses conférences à la ferme du Plessis à Pongouin, Pierre Rabhi est revenu sur ce qui lui pose question et fonde sa pensée. On va écouter un autre extrait que l'on pourrait nommer « Sommes-nous vraiment intelligents ?»
Nous sommes arrivés à peu près, on donne le ratio sur 24 heures, nous sommes là depuis une minute et demie sur la création de la Terre. Et puis auparavant, toute la création de la Terre s'est faite sur la coopération, c'est-à-dire que la vie s'est développée sur Terre par la coopération, c'est ce que le livre que nous venons de publier avec Jean-Marie Pell. Et donc tout a fonctionné sur la coopération et sur l'associativité. Il y a un renforcement de la vie au fur et à mesure qu'elle avance. Tout ce qu'elle crée ne crée rien d'inutile et tout ce qu'elle crée renforce la vie. Et puis arrive l'être humain et c'est la seule espèce qui a introduit la dualité. Jusque-là, c'était la coopération, puis on rentre dans la dualité. Et cette planète magnifique, elle est, au lieu d'être perçue comme une chance, comme quelque chose d'extraordinaire, comme un miracle extraordinaire, cette oasis magnifique au milieu d'un grand désert astral et sidéral, eh bien on l'a perçue de plus en plus comme un gisement de ressources qu'il faut transformer en argent et transformer tout ce bien qui nous est donné, que la nature nous a donné, doit être transformé en lucre. Et donc on est aujourd'hui dans des situations où le lucre, en ayant obsédé et ayant complètement fait dévier la raison des êtres humains, nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise aiguë. Et je dirais même que le problème de l'intelligence se pose, puisque j'imagine toujours des extraterrestres en train de nous étudier, je dirais évoluer. Comment voulez-vous qu'ils puissent conclure qu'ils sont intelligents? Voilà, il manque. Sur une planète où la surabondance est tout à fait possible. Parce que, vous savez, vous prenez un grain de blé, d'abord il y a le mystère de ce grain de blé, où il y a cette concentration d'une forme d'intelligence qui est à l'intérieur de ce grain de blé. Quand vous le mettez en terre et que vous mettez les bonnes conditions, ils vont vous donner 5, 6, 10 épis, chaque épi en 40 graines. Si vous ressemez, vous nourrissez l'ensemble de la planète. Pourquoi y a-t-il famine sur la planète alors qu'il y a une dynamique de la surabondance qui est liée à ce phénomène de la vie et cependant il y a une défaillance par rapport à la répartition des biens et des ressources et au droit à chaque être humain de survivre. Donc toutes ces questions se posent ensemble et on se rend compte que cette humanité censée être intelligente ne l'est pas. Et qu'on donne beaucoup plus d'importance au meurtre, à la destruction, aux armes et à toutes ces choses-là. C'est-à-dire, on est au service de la violence et de la mort, beaucoup plus qu'au service de la vie, que nous tuons de part. Donc l'humanité se pose en termes de questions. Et je pense qu'il y a eu une erreur assez importante, c'est que nous avons fait un clivage entre la nature et nous. La nature et nous, et nous avons oublié que nous sommes la nature. Il y a juste quelques jours, une femme est venue pour faire une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Nous sommes tous de la flotte ici. Donc il y a à peu près 75 à 80% de flotte qui vous parle. Donc l'eau, c'est moi. La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle applique des règles et des lois. Si on transgresse, on disparaît. Et je suis persuadé vraiment qu'aujourd'hui nous sommes dans une transgression où l'être humain va se naufrager sur une planète insubmersible. Quand on dit on fait à la Terre sommet, la puissance, ça fait des milliards d'années qu'elle subit des avatars et. Ça les remise tout le temps, et même des situations, on aurait pu croire que ça y est, l'être humain détruira pas la planète. Il se détruira, oui, lui-même, parce qu'il n'aura pas compris le sens. Et c'est là où il y a une défaillance spirituelle par rapport à l'approche de la vie, on a tellement matérialisé la vie que finalement l'aspect spirituel a été relégué. Bien sûr, on dit existe-t-il une vie après la mort, mais moi je dis existe-t-il une vie avant la mort. Parce que qu'est-ce que veut dire vivre ? Est-ce que c'est simplement être, s'instruire, avoir un emploi, aller à la retraite et mourir ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Et aujourd'hui, ce qu'on dit finalement, c'est que notre modèle de société est libérateur. Mais quand je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, de la maternelle à l'université, il est enfermé, on appelle ça d'ailleurs le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Aujourd'hui, même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment ? Dans sa caisse, bien sûr. Et puis on a la boîte en vue en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon. Si ça, c'est libérateur, alors c'est que j'ai mal compris ce que vous voulez dire, libération. Donc ce qui veut dire qu'il y a un être humain dans la modernité, mais qui est incarcéré dans un modèle de société. Complètement.
On a entendu un petit extrait de Pierre Rabhi qui résume sa pensée. Je voulais vous faire entendre aussi un extrait d'une parole de Yehudi Menuhin, qui est violoniste et qui est un ami de Pierre Rabhi.
De ses propres mains, Pierre Rabhi a transmis la vie au sable du désert. Cet homme très simplement saint, d'un esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur par un travail qui rétablit la chaîne de vie que nous interrompons continuellement.
Voilà, c'était juste pour terminer le portrait de Pierre Rabhi et vous dire que c'est une invitation aussi à un retournement, une sorte de révolution intérieure, à une reconnexion à la nature que nous avons vraiment ressentie pendant cette journée de conférence lorsque nous étions à la ferme du Plessis le 18 juillet dernier. Et donc cette année, nous allons axer nos rencontres Colibri sur le sujet de la révolution intérieure. Donc nous allons avoir une première rencontre le 13 septembre qui vient, pendant nos groupes de Cercle Cœur. Et Angélique et Lynn vont nous faire un petit état des dates importantes au sujet de Colibri. Lynn, tu veux peut-être commencer par les dates qui correspondent à l'Alterciné.
Alors, l'Alterciné 28, déjà c'est une réalisation lancée par le groupe Colibri Chartres. C'est une organisation en partenariat avec le cinéma de Chartres, Les Enfants du Paradis. Un spécial merci à Peggy et à Olivia. L'idée c'est de mettre en lumière la préciosité de la vie sur grand écran, montrer des alternatives qui fonctionnent et créer du lien. Après la projection, nous aborderons un échange tous ensemble. Donc une première date à retenir, le 2 octobre 2015 à 20h, où sera projeté le film « Enquête de sens ». C'est un road movie lumineux avec différents témoignages au travers de différents domaines comme l'économie, la science, la spiritualité, le vivre ensemble. Et ça illustre très bien cette fameuse transformation intérieure. Quant à la deuxième date, ce sera le 11 décembre 2015 à 20h pour le film « Demain », un film co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. C'est un film qui propose une vision très large des innovations pour des modes de fonctionnement alternatifs, spécialement conçus pour le COP21, contre le changement climatique. À savoir, ces deux films-là ont été réalisés grâce à plein de gens différents en financement participatif. Voilà.
Et puis les dates de Colibri ?
Oui, alors je voudrais rappeler que le groupe Colibri se réunit tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à partir du 13 septembre au restaurant Le Cléo à Luisant. Donc nous démarrons l'année. Spécialement cette année, nous allons collaborer et laisser émerger nos envies et nos désirs pour les réalisations à venir. Je ne vous donnerai pas un programme annuel parce que nous allons le co-construire ensemble et le faire évoluer. D'ici la fin de l'année, en tout cas pour septembre, notez Alternativa le 19 septembre à Chartres, où nous serons présents, où seront présents un certain nombre d'associations et d'acteurs du territoire venus parler du climat, autour du climat. Et le 26 septembre, à Chérisy, le salon Habiter et vivre écologique, avec Laverne. Spécialement cette année, Jean-Marie Pelt sera invité. Et voilà, nous aurons également un stand et nous vous invitons à venir nombreux nous rencontrer. Pour trouver plus d'informations, vous rentrez Colibri 28 sur votre sur Google ou votre moteur de recherche habituel et vous nous trouverez très rapidement sur Facebook et sur un blog.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette première émission consacrée à Pierre Rabhi. Merci à Angélique et à Lynn qui se sont prêtées à ce jeu.
Merci Alexia.
Merci toujours à Simon qui est en coulisses, qui ne dit rien mais qui œuvre. Nous nous retrouvons le mois prochain où nous aborderons le thème de la révolution intérieure à nouveau avec des extraits des conférences de cette journée du 18 juillet, si précieuse. D'ici là, toutes les informations sont sur le site de Radio Grand Ciel, l'émission Le Domaine du Possible. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.